Radio France Internationale, 6h à Paris, 7h à Tel Aviv, il est 7h30 à Téhéran. L'heure d'un nouveau journal avec vous, Jeanne Bartoli. Bonjour Jeanne.
Bonjour Nemo et bonjour à tous. Dans ce journal, une pluie de missiles balistiques iraniens s'abattent sur Israël depuis hier soir. Dernière vague, il y a quelques heures, la riposte de l'Iran aux attaques israéliennes menées depuis 24 heures maintenant sur des sites militaires et nucléaires iraniens. On verra ce que les Israéliens pensent de cette opération militaire. Et alors que les États-Unis restent, eux, en retrait, vous entendrez le chercheur Eli Tenenbaum. Il estime que Washington souhaite prendre un peu de distance vis-à-vis de l'allié israélien. À suivre également, le frère de l'opposant tchadien Yahya Dilo, tué lors de l'assaut du siège de son parti par l'armée tchadienne, a porté plainte en France pour assassinat et complicité d'assassinat impliquant au moins un ressortissant français. Les détails à suivre. On évoquera également la difficile reconstruction de Mayotte après le passage dévastateur de l'ouragan Chido. C'était il y a 6 mois. Et puis l'espace de libre circulation des personnes dans l'Union européenne, à l'espace Schengen, fête ses 40 ans. Nous serons à Bruxelles à la fin de ce journal. L'Iran a donc lancé ces dernières heures une nouvelle série d'attaques sur Israël. La troisième vague de tirs de missiles depuis hier soir. Des missiles balistiques, une riposte suite aux frappes massives menées depuis 24 heures maintenant par l'aviation israélienne sur des sites militaires et nucléaires iraniens. Le guide suprême de la révolution iranienne, Ali Khamenei, a accusé hier soir Israël d'avoir lancé une guerre contre l'Iran. Il a promis une réponse sans demi-mesure. En Israël, les sirènes d'alerte ont retenti toute la soirée et une partie de la nuit. À Tel Aviv, un immeuble a été touché par un missile iranien. Avant cette riposte de l'Iran, l'une de nos correspondantes à Jérusalem, Alice Moreno, avait demandé aux Israéliens ce qu'ils pensaient des attaques menées par Israël en territoire iranien. Son reportage.
Ils sont nombreux à soutenir complètement l'initiative de frappes israéliennes sur l'Iran. Amanda déroule l'argumentaire du gouvernement Netanyahou.
Je suis heureuse des frappes, car si l'Iran a l'arme nucléaire, il pourra détruire Israël et tuer 8 millions de personnes, 6 millions de Juifs et 2 millions d'Arabes.
D'autres, à l'image de Matisse, n'osent pas encore trancher.
J'ai décidé de reporter toute forme de jugement sur l'aspect raisonnable des actions militaires, et ce, jusqu'à ce que la crise prenne fin.
Les anciennes générations sont quant à elles gagnées par la lassitude. Aaron a 85 ans.
C'est malheureux, mais c'est comme ça que l'humanité s'effondre. La revanche, tu me fais ça, je te fais ça. C'est ce qui constitue toute l'histoire, n'est-ce pas ? Je ne suis pas inquiet pour moi, mais j'ai des petits-enfants, donc ça me dérange un peu, mais il n'y a rien à faire.
Si le soutien aux frappes d'Israël sur l'Iran est nuancé au sein de la population, personne ne semble s'y opposer clairement. Alice Moreno, Jérusalem, RFI.
Hier, le conseiller à la sécurité nationale israélien a jugé, lui, impossible de détruire le programme nucléaire iranien par la seule force. Côté bilan, en Israël, une personne est décédée dans la région de Tel Aviv, selon des médias israéliens. Il y a une trentaine de blessés. Côté iranien, cette fois, l'ambassadeur à l'ONU évoque 78 morts et plus de 320 blessés, dont une large majorité de civils. Lui n'a pas commenté l'escalade en public. Donald Trump s'est entretenu, en revanche, par téléphone hier avec Benjamin Netanyahou. Rien n'a filtré sur le contenu de ces discussions. Hier, le président américain a exhorté le régime iranien à conclure un accord sur le nucléaire avant qu'il ne reste plus rien, prévenant sur son réseau social que les prochaines attaques israéliennes seraient encore plus brutales, alors que demain dimanche était censé, selon le calendrier, avoir lieu une nouvelle session de pourparlers entre l'Iran et les États-Unis. Les États-Unis qui soutiennent Israël, mais qui restent relativement distant vis-à-vis des attaques menées en Iran. Écoutez à ce sujet le directeur de recherche à l'IFRI, Eli Tenenbaum.
La présence américaine est très importante. On parle de 30 000 hommes entre les grandes bases au Qatar, au Koweït, une présence aux Émirats arabes unis, en Irak, en Arabie saoudite, en Jordanie. Tous les pays de la région ont à un degré ou à un autre une présence américaine qui d'ailleurs est régulièrement attaqué par les alliés, partenaires, proxys de l'Iran dans la région. C'est d'ailleurs dans ce sens que Marco Rubio, secrétaire d'État américain et conseiller à la sécurité nationale Donald Trump, a publié un texte menaçant l'Iran s'il venait à prendre pour cible comme représailles les forces américaines présentes dans la région. Et en même temps, pas de message de soutien effectif des États-Unis à l'opération. On sent que du côté américain, il y a une volonté de bien faire comprendre que c'est une décision israélienne unilatérale.
Élie Tenenbaum de l'Institut français des relations internationales au micro de Franck Alexandre, les États-Unis qui ont néanmoins confirmé hier soir qu'ils aidaient l'armée israélienne à abattre les missiles iraniens visant le territoire israélien. À noter qu'Emmanuel Macron a lui défendu hier le droit d'Israël à se protéger. Le président français qui a même reconnu certains effets des frappes israéliennes contre les capacités nucléaires de l'Iran. Emmanuel Macron qui a par ailleurs annoncé le report de la conférence internationale prévue la semaine prochaine au siège de l'ONU, conférence co-présidée avec l'Arabie Saoudite. Emmanuel Macron qui devait y intervenir mercredi et avait envisagé d'y reconnaître un État palestinien. Il réitère sa détermination à reconnaître l'État palestinien. RFI sera en édition spéciale tout à l'heure à partir de 7h, heure de Paris, 5h, temps universel. L'actualité de ce samedi, c'est aussi les États-Unis, des Marines dans les rues de Los Angeles. Ces troupes d'élite d'ordinaire déployées à l'étranger ont été dépêchées par Donald Trump aux côtés de la garde nationale, officiellement pour rétablir l'ordre à la veille aujourd'hui d'une grande journée de manifestation à travers le pays pour protester contre la politique du président républicain en matière d'immigration et plus généralement contre une politique jugée de plus en plus autoritaire. Direction le Tchad, à présent, où il l'avait annoncé, cette fois c'est fait, le frère de Yaya Dillo, Ousmane Dillo, a déposé une plainte contre X en France pour assassinat et complicité d'assassinat impliquant au moins un ressortissant français. L'opposant tchadien avait été tué lors de l'assaut du siège de son parti par l'armée tchadienne. C'était en février 2024. L'avocat de son frère, Charles-Stéphane Marchiani, pointe l'inertie des autorités tchadiennes.
Aucune enquête n'a été mené. Le ministre de la Justice tchadien a dit qu'il n'y aurait pas d'investigation particulière. Monsieur Yaya Dillo est mort par balle. À la suite de son décès, contrairement à tous les usages internationaux, il n'y a eu aucune autopsie. Il a été directement enterré et le gouvernement tchadien s'est refusé à toute autopsie. Moins de 48 heures après, l'immeuble du Parti Socialiste Sans Frontières, où l'assaut avait été donné et où Monsieur Yaya Dillo a trouvé la mort, a été purement et simplement rasé par les autorités tchadiennes. C'est-à-dire qu'on a fait disparaître la scène de crime. Effectivement, pour mener une enquête, ensuite, c'est très difficile d'aboutir. Il y a des éléments qui, aujourd'hui, ne sont pas connus des victimes et pourront être portés à la connaissance du procureur de la République de Paris si celui-ci ouvrait une enquête et utilisait les prérogatives qui sont les siennes, notamment en matière de droit de communication.
L'avocat d'Ousmane Dillo, joint par Clotilde Hazard. C'était il y a 6 mois, jour pour jour, le cyclone Chido s'abattait sur Mayotte, transformant l'île en champ de ruines. Depuis, la reconstruction met du temps à se concrétiser. Une partie de l'hôpital de Mayotte a ainsi dû être rasée pour laisser place à de nouveaux bâtiments. Écoutez le docteur Albarello, directeur de l'Agence régionale de santé de Mayotte.
Aujourd'hui, l'hôpital se reconstruit. On a un bâtiment avec les toitures qui avaient été arrachées, donc des réparations ont été faites. Les bâtiments qui avaient été fortement impactés ont été rasés pour pouvoir ensuite faire un bâtiment urgence, SAMU et réanimation, un nouveau bâtiment avec une hélicitation sur le toit pour que l'hélico puisse se poser. Nous avons été fortement impactés en termes de capacité chirurgicale. On a la moitié du capacitaire avant Chido et donc on a moins de possibilités d'opérer sur le territoire des patients. Donc bien sûr, on opère les urgences, c'est une évidence, mais les chirurgies programmées sont retardées dans la prise en charge et on est en train de regarder avec nos partenaires de La Réunion pour que cette file d'attente soit résorbée aussi par La Réunion pour ces patients mahorais qui sont en attente de chirurgie programmée.
Le directeur de l'Agence régionale de santé de Mayotte au micro de Manon Hiller. En Inde, les enquêteurs ont retrouvé l'une des deux boîtes noires du Boeing d'Air India qui s'est écrasée jeudi sur un quartier résidentiel d'Ahmedabad. Un crash qui pèse sur le salon aéronautique du Bourget qui ouvre ses portes près de Paris. Ce sera lundi matin. Le patron de Boeing a en effet annulé sa venue au salon dans un contexte toujours aussi difficile pour tout le secteur aéronautique. Agnieszka Kumor.
Si l'édition 2023 du salon a vu les commandes exploser après la parenthèse de la pandémie du Covid-19. L'édition de cette année se déroule dans le contexte de la guerre commerciale et du ralentissement de l'économie mondiale. Selon les experts, les perspectives sont très modérées pour les achats et les vols d'avions de ligne. De même, les droits de douane imposés par les États-Unis contribuent à l'incertitude ambiante. Les coûts explosent et les chaînes d'approvisionnement mondiales sont perturbées. Des compagnies aériennes comme Ryanair ou Delta ont d'ores et déjà mis en garde contre les annulations possibles de commandes si les prix continuent d'augmenter. En revanche, les commandes d'avions de chasse comme le Dassault Rafale seront suivies de plus près. Pareil pour le domaine spatial où les Européens Airbus ou Thales SA comptent concurrencer SpaceX d'Elon Musk. Décidément, le salon du Bourget est placé cette année plus que jamais sous le signe de la géopolitique et de la possibilité de conflits militaires dans le monde.
Agnieszka Kumor du service économie d'RFI. Et puis un anniversaire dans l'actualité, l'espace de libre circulation des personnes en Europe, l'espace Schengen qui fête ses 40 ans. Schengen, c'est le nom d'un village au Luxembourg à la frontière de l'Allemagne et de la France, là où ont été signés les accords du même nom. Et depuis, il s'est passé beaucoup de choses, Pierre Benazé.
Les débuts de Schengen auront été poussifs, 10 ans pour l'entrée en vigueur, mais les Européens s'y sont vite habitués, à tel point qu'un film sur la disparition à l'époque des postes de douane franco-belges avait bénéficié d'une critique cinématographique du président du Conseil européen lui-même. L'Irlande a refusé d'en faire partie, elle a une frontière ouverte avec les Britanniques qui n'en voulaient pas. En Espagne, les passeports sont tout de même contrôlés si on quitte Ceuta ou Melilla, le petit archipel quasi-polaire de Jan Mayen est dans Schengen parce qu'on a négligé d'enlever son nom quand la Norvège a adhéré, alors que les îles Féroé danoises ont été exclues, ainsi qu'en Grèce, la communauté monastique du mont Athos, où les femmes n'ont pas le droit d'entrer. Mais avant de pouvoir aller sans contrôle de l'Atlantique à la mer Noire, il y aurait eu de nombreux rebondissements. Et d'ailleurs, l'admission de la Roumanie et de la Bulgarie à Schengen, qui permet désormais ce trajet, a été longtemps repoussée. Schengen s'étend, mais les gouvernements nationaux manquent rarement une occasion de rétablir les contrôles, ce que fait par exemple la France depuis 2015, alors qu'au départ, c'était normalement limité à 6 mois. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Bruxelles et Paris, où il est
6h12. RFI, toute l'actualité.
Jeanne Bartoli.
Et vous restez avec nous sur la radio du monde. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec l'accent des autres, l'actualité vue par les médias francophones publics. Et c'est avec Olivier Nederland.
L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
Et voici donc l'actualité de la semaine avec les médias francophones publics. Les partenaires, comme chaque semaine, RFI, Radio-Canada, ici la Radio-Télévision Suisse et la RTBF. Et d'abord, les suites de 2 scrutins au Burundi, Nicolas Sûr. La commission électorale a publié cette semaine les résultats des législatives et des municipales du 5 juin dernier.
Le scrutin avait été très controversé, les résultats le sont tout autant, car le CNDD-FDD au pouvoir a raflé tous les sièges qui étaient en jeu.
En Suisse, le trafic ferroviaire a été fortement perturbé lundi dernier, des perturbations liées à des manifestations en faveur de Gaza, Pierre Anchoffa.
Oui, dans les gares de Lausanne et Genève, 100 de manifestants ont occupé les voies, une technique qui n'est pas sans rappeler les actions coup de poing d'Extinction Rébellion et qui traduit aussi une indignation face à l'inaction.
Les pourparlers entre le Canada et l'administration Trump, on y revient cette semaine. Elles avancent, Nadi Mubarak, à quelques jours du sommet du G7 en Alberta.
Le premier ministre Mark Carney confirme à Radio-Canada que des négociations intensives se poursuivent avec les Américains pour faire lever les tarifs douaniers imposés par Washington.
La France sous le choc après le meurtre d'une surveillante à Nogent en Haute-Marne, une jeune femme de 31 ans poignardée par un élève de 14 ans. Le jeune homme a été mis en examen et un peu partout des hommages ont été observés par des profs, des élèves, des parents, des conseillers d'éducation et tous s'interrogent.
La question que je me pose, c'est pourquoi aujourd'hui il y a des jeunes qui se sentent dans l'obligation de porter un couteau sur eux. On sait que quand on a une arme sur soi, à chaque moment ça peut déraper.
Enfin, en Belgique, nous reviendrons sur cette très grosse opération de police menée cette semaine à Anderlecht, et c'est en région bruxelloise. Plus de 800 policiers ont investi un quartier connu pour être un haut lieu du trafic de stupéfiants, Jacques Kremers.
Oui, c'est la cité du Peterbos. L'objectif était de sécuriser un quartier laissé trop longtemps aux mains d'organisations criminelles. D'autres actions auront lieu prochainement pour déstabiliser les trafics de drogue.
Le secrétaire général du CNDD-FDD au pouvoir au Burundi en avait fait un objectif, obtenir 100% aux élections législatives. Le parti présidentiel s'empare des 100 sièges qui étaient en jeu lors de ces élections du 5 juin dernier, Nicolas.
Oui, la commission électorale le crédite de plus de 96% des voix exprimées. Ces mêmes résultats provisoires donnent l'ancien parti unique UPRONA, deuxième des législatives, loin, très loin du CNDD-FDD, avec seulement 1,36% des voix. L'UPRONA dénonce un hold-up électoral.
Et son secrétaire général, Olivier Nkurunziza, accuse le parti au pouvoir d'avoir, je cite, tuer la démocratie au Burundi.
Il parle de résultats fantaisistes en pointant par exemple le fait que le parti au pouvoir a obtenu dans deux communes au moins 100% des voix, ce qui signifierait, dit-il, que même les candidats d'opposition ont voté pour le CNDD-FDD et qu'il n'y a pas eu de bulletin nul, absurde et même ridicule selon lui. Pour les observateurs, le scrutin avait en fait été verrouillé bien en amont. Exclusion du principal opposant, Agathon Rwasa, de la course électorale, répression, intimidation, des Imbonerakure, la milice des jeunes du parti au pouvoir dans les collines le jour du vote. L'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch estime que le CNDD-FDD n'a pas voulu prendre de risques lors de ces élections, notamment à cause des frustrations grandissantes au sein de la population. Le Burundi, qui est déjà l'un des pays les plus pauvres au monde, traverse effectivement une grave crise économique marquée par des pénuries de toutes sortes.
Des pénuries qui frappent aussi cruellement la bande de Gaza. On va revenir un instant sur les manifestations de soutien qui se tiennent un peu partout. Au lendemain de l'arraisonnement du bateau Madeleine par l'armée israélienne, des manifestations de soutien à la population de Gaza ont notamment éclaté dans plusieurs villes de Suisse romande. Et Pierre-Anne, le mode opératoire rappelle les actions d'Extinction Rébellion en lien avec le climat.
À Lausanne et à Genève, une partie des manifestants réunis dans les gares a en effet envahi les voies, perturbant fortement le trafic ferroviaire en fin de journée lundi dernier. Le lien avec la cause est moins évident que lorsque les activistes du climat se collaient les mains sur la route pour bloquer la circulation. Mais le parallèle a du sens pour Hasni Abidi, spécialiste du monde arabe, qui a étudié la mobilisation étudiante en faveur de Gaza.
On l'a vu avec l'environnement, c'est des causes comme on appelle transversales. Ce bateau intercepté, les jeunes s'identifiaient à cette cause qui est pacifique, humanitaire, briser le blocus, mais aussi alerter l'opinion publique internationale pour dire « attention, ne vous détournez pas de ce qui se passe dans ce territoire qui est en train de disparaître de la carte ».
Cette indignation, ce réveil attendu s'exprime très clairement pour cette jeune manifestante après l'arraisonnement du bateau humanitaire Madeleine.
Ce bateau-là n'est pas passé, peut-être que le dixième passera. Mais de toute façon, ce que ça a déclenché, cette arrestation, c'est l'indignation, c'est un sentiment qui pousse les gens à se rassembler. Donc pour moi, c'est quelque chose de positif parce que ça a donné de la force aux gens, ça leur a donné justement le courage de se dire « c'est trop ».
Une mobilisation spontanée qui met les autorités dans une position délicate, Pierre-Antoine Hildebrand est municipal en charge de la sécurité à Lausanne.
Nous subissons une partie de notre tolérance. La ville de Lausanne accepte les manifestations et fait toujours bien soin de préserver cette liberté, mais ça ne peut pas aller jusqu'à bloquer le principal nœud ferroviaire de Suisse romande. La manifestation est destinée à faire comprendre au public l'importance d'une cause. Nous sommes très respectueux de ce droit, mais ça ne peut pas aller jusqu'à de blocage d'infrastructures ou de violence.
Un équilibre délicat à trouver entre le droit de manifester et les nuisances potentielles de cette mobilisation.
Direction le Canada à présent et on va revenir sur les négociations entre Ottawa et Washington pour un accord sur le commerce et la sécurité. Ces négociations, on a dit, ont franchi une nouvelle étape.
Oui, Radio-Canada a appris qu'une ébauche d'entente a été échangée entre les bureaux du premier ministre Mark Carney et celui du président Donald Trump. Il s'agit d'un court document de moins de 5 pages. Voici Mark Carney.
Nous sommes en train de discussions, des négociations en temps réel, des négociations intensives avec les Américains. On a fait du progrès, mais c'est pas fini. C'est pas fini encore.
Ottawa espère que le tête-à-tête prévu entre le premier ministre canadien et le chef de la Maison-Blanche en marge du sommet du G7 qui commence le 15 juin au Canada va faire débloquer les pourparlers.
Alors, est-ce qu'on sait ce qui fait l'objet de discussions entre Ottawa et Washington?
Eh bien, selon nos informations, le Canada obtiendrait de son voisin du Sud la levée de tous les tarifs douaniers imposés par Donald Trump depuis le début de son deuxième mandat, en échange d'une augmentation des dépenses militaires et d'investissements pour défendre la souveraineté de l'Arctique, notamment. D'ailleurs, le premier ministre Mark Carney n'exclut pas l'idée de participer au projet de bouclier antimissile Dôme d'or mis de l'avant par les Américains.
Et en marge de ces négociations, on a dit Ottawa appuie sur l'accélérateur pour atteindre ce que souhaite l'OTAN en la matière, et cela dès la fin de l'exercice financier.
Tout à fait. Ottawa a annoncé il y a quelques jours que le Canada atteindra l'objectif de dépenses militaires de l'OTAN de 2% du PIB dès cette année, notamment grâce à des investissements de près de 9,5 milliards de dollars ou 6 milliards d'euros. On parle ici d'achats de drones, de blindés, de munitions et de radars dans l'Arctique, entre autres. Et le premier ministre Carney n'a pas l'intention d'enrichir les plus grandes entreprises américaines avec ses dépenses. Il entend mettre l'accent sur l'industrie militaire canadienne.
Nadi Mobarak à Montréal.
L'accent des autres.
Des hommages, des minutes de silence un peu partout en France cette semaine après le meurtre d'une assistante d'éducation, une surveillante à Nogent dans la Haute-Marne. C'était mardi dernier. Mélanie avait 31 ans. Elle a été poignardée par un élève de 14 ans en marge d'une fouille des sacs à dos à l'entrée de son collège. Un rassemblement s'est tenu notamment à Tours à l'appel de plusieurs syndicats de l'éducation nationale, des profs en exercice ou retraités, mais aussi et surtout des assistantes d'éducation étaient présentes. Elle se sent évidemment très concernée par ces événements. Reportage à Tours, Philippe Père pour Ici Touraine.
Lisa est surveillante au collège-lycée Paul-Louis Courrier à Tours. Elle a 31 ans, le même âge que sa collègue tuée mardi matin.
C'est important de venir et au moins de manifester un soutien à la famille de notre collègue décédée et en fait à tous les assistants d'éducation. Parce qu'on est tous ensemble dans ce bateau.
On n'est pas des vigiles, lance la jeune femme.
Malheureusement, on nous demande de faire des choses qui vont, je pense, au-delà de nos missions de base, en fait.
Parce que oui, fouiller des sacs, ça leur est déjà arrivé, raconte Nina, 24 ans, surveillante dans le même établissement.
L'année dernière, on avait eu, c'était suite à l'attentat à Arras, on a dû fouiller, donc fouille visuelle des sacs d'élèves. Et dans ce cas-là, on n'est pas forcément très à l'aise avec ce genre de mission qui, je pense, ne relève pas de nos missions.
C'est un métier qui devient dangereux et qui ne devrait pas l'être, poursuit-elle, sous le regard médusé d'Anne Grandet, co-secrétaire du syndicat des enseignants en Indre-et-Loire.
On est touché. Vous savez qu'il y a quelque temps, il s'agissait d'enseignants. C'est toujours la profession qui est touchée, en fait. On a du mal à imaginer qu'un collégien de 14 ans passe à l'acte, poignardant avec 7 coups de couteau, une assistante d'éducation. Ça sort de l'entendement.
Une sidération partagée par tous, ici, devant l'hôtel de ville, où une minute de silence a été observée.
Nous vous remercions.
Merci.
Reportage à Tours de Philippe Père pour Ici Touraine. Enfin, en Belgique, c'est une vaste opération de police qui a fait l'actualité cette semaine. Elle a été menée à Anderlecht, en région bruxelloise. Plus de 800 policiers ont investi un quartier connu pour être un haut lieu du trafic de stupéfiants, Jacques.
C'est la cité du Peterbos, un quartier bruxellois considéré comme un hotspot du trafic de drogue. Il est connu pour son insécurité. Cela fait des années qu'il a cette mauvaise réputation. Pour ses habitants, l'intervention de la police cette semaine est accueilli avec soulagement.
Clairement, bien sûr, on est entouré de personnes qui dealent, qui vendent, qui consomment. Oui, j'ai une fille qui a 29 ans et je suis parfois inquiète quand je la vois partir de la maison, toute jolie pimpante. En tout cas, non, c'est pas facile.
C'est une très bonne nouvelle de voir la police ici. On est plus à l'aise, on est un peu tranquillisé. Parce que les gens, ils en ont marre ici, ils en ont marre. Ils sont dégoûtés de voir ce qui se passe. Des problèmes, on en a par-dessus la tête.
Plus de 800 policiers ont littéralement encerclé le quartier en début de matinée, un déploiement impressionnant qui visait surtout des appartements vides, plus de 270, utilisés comme cache ou pour la traite des êtres humains. Julien Moinil est le procureur du roi de Bruxelles.
Opération de sécurisation, on n'agissait pas sur base de mandat de perquisition, qui a pour but de reprendre le contrôle d'un quartier qui est aux mains ou qui a été aux mains à un moment donné de très grosses organisations criminelles et qui sert encore aujourd'hui de lieu de deal, ce qui n'est pas acceptable. Et donc, le message, c'est, ça fait des années que ça dure, il est temps que ça cesse.
Bilan de l'opération, plus de 400 personnes contrôlées, une trentaine d'arrestations. D'autres actions auront lieu prochainement, encore déclaré le procureur du roi de Bruxelles. D'autres quartiers feront l'objet de la même attention, toujours dans l'objectif de déstabiliser les trafics de drogue dans la capitale.
Jacques Kremer, c'est la RTBF pour refermer l'accent des autres. Merci d'avoir été au rendez-vous. Les médias francophones publics vous retrouvent bien sûr dans 8 jours pour l'accent des autres. Excellente fin de semaine.
Et bon week-end, c'était Olivier Nederland, l'accent des autres que vous retrouvez évidemment sur notre site RFI.fr.
Vivre ailleurs.
Votre chronique dédiée à l'expatriation avec une question aujourd'hui. Comment se passe la gestion de l'héritage pour les Français expatriés? Comment gérer aussi son patrimoine? Quels enjeux patrimoniaux quand on vit dans l'expatriation? Benoît Lombard est directeur général délégué du groupe Laplace, une société de conseil en gestion de patrimoine. Il répond aux questions de Corinne Mandjou.
Il y a beaucoup de Français qui sont à l'étranger. Je crois qu'on est un peu plus d'un million sept qui sont inscrits au consulat. Peut-être un peu plus du double, nous dit-on en chiffres. Donc il faut les accompagner dans le cadre de la gestion d'un patrimoine, ce qui suppose deux choses. La première chose, c'est bien sûr leur épargne. Il faut prévoir la dernière période de son existence, la retraite, et les systèmes de retraite ne sont pas toujours aussi avantageux dans les pays étrangers que ceux qu'on a en France. Et puis le deuxième impact, c'est bien évidemment organiser la transmission d'un patrimoine. Et les règles ne sont pas les mêmes selon qu'on est résident français avec des héritiers français et des actifs français. Et lorsqu'on a des éléments d'extranéité, comme l'on dit, eh bien, il faut faire attention, le diable se niche dans les détails, on est là pour essayer de le dénicher, justement, ce diable.
Alors, quelles sont les bonnes pratiques en général avant le départ en expatriation?
Alors, avant le départ, il faut organiser son arrivée. Une fois qu'on est installé, il faut pouvoir penser à aménager des éléments auxquels on ne pense pas en France. Par exemple, la retraite. En France, on a un régime qui fonctionne par répartition. Vous cotisez pour ceux qui sont à la retraite. Mais c'est pas toujours le cas dans les pays étrangers. Et si la pression fiscale, sociale est inférieure, les avantages qui en découlent au moment où l'on part en retraite ne sont pas les mêmes.
Comment sécuriser son patrimoine quand on est déjà à l'étranger?
La règle, elle est anticipée. Il faut prévoir. C'est-à-dire qu'il faut conserver une partie de son épargne disponible pour disposer d'une masse au sein de laquelle on pourra ponctionner lorsqu'on sera à la retraite. Donc, il faut capitaliser. C'est la retraite par capitalisation parce que dans beaucoup de nombre d'États étrangers, on n'a pas un régime aussi avantageux que ce qu'on est en France.
Le retour, quand on rentre en France, il faut aussi penser à son patrimoine, le régime matrimonial, les transmissions. Comment ça se passe?
Les règles qui s'appliquent, notamment en matière de régime matrimonial, notamment en matière de succession, ne sont pas régies de la même manière selon les États où l'on réside. La loi qui s'applique pour le régime matrimonial, il faut la connaître. Si vous vous installez à l'étranger et que vous n'avez pas décidé le régime matrimonial que vous devez choisir, donc vous n'avez pas pris un contrat de mariage, pour parler clairement, eh bien vous pouvez être assujetti à la loi du pays où vous vous installez, qui n'est pas toujours la même que celle qu'on le connaît en France. Exemple, en France, on est marié sur un but de communauté à défaut de contrat de mariage. Ce n'est pas le cas, par exemple, en Allemagne. Et donc, il s'agit d'anticiper. Pour anticiper, il faut prévoir. On peut choisir. Aujourd'hui, on a des règles qui s'appliquent en matière européenne qui permettent notamment de choisir le régime matrimonial sous l'emprise de laquelle on a envie de régir les actifs de la famille de monsieur et de madame.
Ça, c'est en Europe.
C'est en Europe. Et à l'étranger, en matière, par exemple, de succession, on a des règles qui ne sont pas naturellement les mêmes. Un exemple, on a dans les Émirats arabes la loi islamique qui s'applique, donc la charia, qui fait que l'épouse peut être exhérédée, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle peut ne pas recevoir aucun des actifs. Et auquel cas, les actifs seront répartis entre les mains de la famille du défunt, si c'est posé que monsieur décède. Mais ça, on peut anticiper. Et les pays étrangers aussi anticipent. Notamment à Dubaï. Nous conseillons des Français qui sont établis à Dubaï. Eh bien, aujourd'hui, on peut choisir la règle qui va s'appliquer en matière de succession. On peut décider que c'est la règle française qui s'applique. Et si c'est la règle française qui s'applique, eh bien, les enfants, l'épouse, sont héritiers. Et donc, auquel cas, les actifs peuvent leur être transmis. Mais attention, cette règle ne s'applique pas à Dubaï pour les actifs immobiliers qu'un époux achète. C'est-à-dire que l'épouse, malheureuse veuve, ne pourra jamais disposer de l'actif immobilier si jamais on n'a pas créé le système qui permet justement de lui affecter et qui est parfois en contradiction avec la règle qui s'applique localement. Donc il faut faire très attention. Si vous décidez le droit qui va s'appliquer à vous, vous pouvez maîtriser. C'est ça ce qu'il faut retenir.
Benoît Lombard, directeur général délégué du groupe Laplace, société de conseil en gestion de patrimoine, au micro de Corinne Mandjou. Bon réveil à tous, il est 6h29, restez avec nous. Le journal à suivre avec Xavier Besson et puis RFI Matin, c'est dans une demi-heure, Julien Coquel-Rohem et ses invités qui vont revenir sur la situation entre Israël et l'Iran. La riposte iranienne a débuté hier soir, les appels à la désescalade se multiplient, édition spéciale sur RFI.
Écoutez RFI en direct et en podcast sur l'application RFI Pure Radio.
Conçue comme une plateforme d'écoute, Pure Radio offre un accès à tous les contenus de RFI en français et dans 16 autres langues. Elle vous permet de rester au plus proche de l'actualité et de retrouver facilement les podcasts de vos émissions préférées. Vous pouvez aussi télécharger un podcast pour le réécouter, même hors connexion.
Avec son appli Pure Radio,
RFI est toujours avec vous.
Toujours avec vous.